En tournant une rue, il est entouré d'émeutiers. Il est entouré de métiers, de gens qui crient leur colère, qui en ont assez de leur misère. Ce sont des pauvres, en haillons, maigres sol. Ils sont de plus en plus nombreux, viennent de ne sais où, sur des allées, cafés, métros. La rue se remplit d'une foule immense, disparate. Galien au milieu de tout ça. Il ne peut y échapper. On le pousse, on le bouscule. Les gens crient, certains chantent, d'autres tapent. Sur les voitures avec des bâtons pour faire du bruit. Et plus leur avance, plus les gens sont exaltés, plus ils crient. Un manifestant, si l'on peut appeler ça un manifesté, lance une pierre dans la vitrine d'un magasin, une épicerie. D'autres en font autant. Et une fois que la vitrine est cassée, se rue dans le magasin pour dévaliser. Les propriétaires des magasins, quand ils le peuvent, baissent le rideau de fer, s'ils en ont un, et ça on les laisse faire. Car les manifestants, enivrés par les exploits des autres, deviennent de plus en plus violents. On tape sur les voitures aussi, on y met le feu. La manifestation se transforme en émeute et devient une folie collective plus forte que celle de la Coupe du Monde, qui elle aussi aurait pu se transformer vu le caractère catastrophique de la France en émeute. L'on ne crie plus qu'on en a faim, que l'on veut du travail, mais à mort les riches, le gouvernement, non à l'Europe, etc. On tape sur tout ce que l'on voit et on met le feu si c'est possible. C'est une vraie furie. Et la police, où est-elle? Le gouvernement, le président de la République. Marc, rien. Les non-manifestants, les pauvres, les handicapés, les vieux, les bourgeois, les contre la violence, etc., se calfeutrent et tremblent de peur chez eux. On jette même des coltels monotones. On met le feu à des immeubles. On crie, on hurle. Les occupants des immeubles incendiés sortent de leurs immeubles en robe de chambre, chemise de nuit et même en slip. Ils ont peur, pleurent. Les manifestants les entourent et leur crient après. Les pauvres ont peur pour leur vie, mais très vite on les laisse pour aller à d'autres. Comme dans les magasins, cafés, on trouve de l'alcool pour boire, on boit beaucoup et la boisson excite, rend méchant, bête. Au milieu de tout ça, Galien et poussé, tiré par les émeutiers. Il a peur, il est même rentré chez lui. Mais il est au milieu d'une masse d'hommes, de femmes et même d'enfants. Il ne peut se dégager et voit avec horreur cette furie collective. Il comprend la misère des gens, mais ne comprend pas qu'on ne puisse avancer dans un tel tabac, dans de telles horreurs. Car plus on avance avec le temps, plus on fait des horreurs. On va jusqu'à violer des filles, des enfants, femmes, jeunes, vieilles, même des manifestantes, dans la rue, comme ça, en groupe. L'alcool rend mauvais. Et on fait n'importe quoi. il n'y a plus de limite. Au milieu de la foule, il doit se rapprocher de lui. Quelques secondes, Robert, le journaliste, qui lui dit
« Enfin, mes 68, ah, oh, toute ma jeunesse, vive la liberté retrouvée !»
Et la foule l'éloigne de lui. Après 2 heures, Galien était au milieu de cette foule. Il se sent épuisé. Il ne sait plus le bruit, la foule. Il manque de s'évanouir. Tout à coup, il y a eu une violente explosion au milieu de la rue. Les gens surpris, paniquent, se retirent un peu et dégagent Galien qui en profite pour courir et s'éloigner le plus loin possible de cette émeute. Il court, mais il a beau aller passer d'une rue à l'autre, il se trouve toujours dans des manifestants avec le feu, les cris, etc., etc. En courant, il tombe dans une impasse qui est presque devenue une cour. Elle est étroite et sans lumière. Les manifestants passent devant sans y faire attention. Il y a au fond de l'impasse un immeuble de 4 étages, sans âge. Pauvre. Tout semble calme dans l'immeuble. Il pousse la porte de l'allée pour se réfugier, en attendant qu'il puisse aller chez lui. L'on entend le bruit des émeutiers dans l'allée. L'allée est étroite, noire. Il appuie sur l'interrupteur de la minuterie. Elle éclaire une lampe branlante au plafond. Voir l'état de l'allée, l'immeuble doit être abandonné. Sol plein de détritus, ça sent mauvais. On doit s'en servir de dépôt d'ordures et de décharges. Il y a des matelas éventrés, des fauteuils, petits meubles, des morceaux de voiture, etc., etc. Les boîtes aux lettres ont été arrachées. Pourquoi l'électricité est-elle restée? Il est vrai qu'avec toutes ces grèves, il reste debout au milieu de tout ça, se demandant s'il ne doit pas s'en aller. Tout à coup, il a entendu un petit bruit. Il y a quelqu'un? Le bruit continue. Il y a quelqu'un? Ne craignez rien, c'est une personne qui a été prise par les par la tourmente. Je cherche un refuge. Des pas. Et apparaît, d'un trou noir au fond de l'allée, une jeune femme dans les 25 ans, grande, mince, blonde, yeux bleus, très belle et pâle. Elle porte un tailleur beige. La minuterie s'éteint. Il la remet en marche et la bloque en donnant un coup de poing sur le bouton pour qu'elle reste constamment allumée. Mademoiselle, monsieur, il lui dit, vous aussi vous avez été prise par la tourmente? Elle lui dit, j'étais sortie pour aller chez une amie alors que je j'étais entourée par tout ça. J'ai couru et je me suis réfugiée ici. Elle lui dit, moi c'est la même chose. Je crains que nous allons être obligés, c'est d'attendre que ça se calme. Elle lui dit, oui, la plupart du temps, ça se calme au matin. Il lui demande, pourquoi? Elle lui répond, parce que les gens sont fatigués après une nuit d'émeute. Ils se calment et s'endort, quitte à recommencer plus tard. Il lui demande, qu'allons-nous faire en attendant? Nous reposer, nous aussi. Trouver un endroit pour nous asseoir. Vous avez raison. Il cherche et trouve des marches d'escalier vides. Il s'y assoit. Il lui dit, je m'appelle Galien Diap. Elle lui dit, moi je suis Fleur de Hautebord. Galien la regarde bien et lui dit, vous êtes de la famille de Hautebord, de Lyon? Oui. Vous êtes la fille d'Hélène de Hautebord? Oui. Mes parents connaissent très bien votre famille. Ma mère reçoit votre mère pour le thé au moins une fois par semaine. Quelle coïncidence tombée sur vous? Elle lui dit, oui, le monde des petits, nous ne voyons pas à Lyon et nous nous trouvons à Paris. Nous tombons dessus à Paris. Il lui demande, mais que faites-vous à Paris? Elle lui dit, je suis venue dans cette ville accompagner mon frère pour qu'il puisse poursuivre ses études. Il lui dit, Charles? Non, pas Charles, mais mon vrai frère, Didier. Charles n'est pas vraiment de ma famille, il est l'ami de Didier. Galien lui dit, je m'excuse, mais vos parents en parlent toujours comme leur fils. Elle lui dit, oui, c'est une désastreuse habitude. Quoique Charles est très gentil, mais il est rêveur et ne fait jamais rien. Il lui dit, mais votre famille aussi, je crois. Oui. Mais depuis, les choses ont changé. Le siècle nous a rattrapés. Et Charles aimait ce côté hors du temps de notre famille, qui n'est plus de mise à cause des événements du monde. On ne peut pas passer à côté des affligés sans chercher à les aider. Et mère a bien compris cela. Galien lui dit, oui, je sais. Elle lui demande, et vous, que faites-vous à Paris? Elle lui dit, Paris et ailleurs, parce que je voyage beaucoup. Et j'ai de très nombreux pieds-à-terre dont je me sers malheureusement comme d'hôtel. Je suis obligé de m'en servir comme d'hôtel. Je suis président du groupe Jeune Tour. Elle lui dit, ah oui, ce groupe qui monte et qui risque de dépasser le Pontoir Compagnie. Elle lui dit, pas tout de suite, nous sommes plus modestes. Mais nous aimerions, c'est un regroupement. Malheureusement, le fils Pontois, Billet, ne veut pas en entendre parler pour le moment. Elle sourit et lui dit, nous sommes tout à fait incongrus. En pleine émeute, au milieu de bruit et des explosions, nous discutons comme si nous étions dans un salon. Elle lui dit, vous avez raison. Et je l'ai fait sans y prendre garde. Cela me rappelle les soirées de Madame Pontois. Fleur lui dit, ah oui. C'était très drôle, tous ces gens en tenue de soirée qui parlaient, dansaient, alors que dehors, il y avait ce qui se passe aujourd'hui. Il lui dit, Ils auront beau faire, nous resterons toujours dans le milieu. Et notre comportement sera toujours de celui-là. Regardez votre mère, lorsqu'elle fait l'humanitaire. Florie, elle lui dit. Elle était d'un drôle. Et prenait son rôle très au sérieux. Mais un rôle passait avant ses intentions. Oui, elle était restée mondaine jusqu'au bout des ongles. D'ailleurs, elle menait les infirmières comme pour une soirée. Il lui demande, « Vous habitez où ?»« Au Marais. »« Seul ?»« Non, j'ai mon frère. Il a fini ses études et père a réussi à le faire entrer au ministère des Affaires étrangères. » Galien lui dit, « Je croyais qu'il voulait être botaniste. » Elle lui dit, « Il l'est presque, parce que sa place est un placard. Donc il a beaucoup de temps pour satisfaire ses passions. Frère est merveilleux. J'ai toujours beaucoup aimé. Il faut s'occuper de lui comme un enfant. » Il lui demande, « Vous avez un autre frère, je crois. » Elle lui dit, « Celui-là, oui. Mais celui-là, il ne faut pas en parler comme d'un haute-bord. C'est Marc. Il a mal tourné. Ma mère l'a trop gâté. Lorsqu'il était jeune, ça en a fait un nanar fou de sa personne et qui prend les autres pour des objets d'expérience. Il est très dangereux. Il vaut mieux pas en parler. Didier, c'est pas la même chose. Lui est très bon. Doux. Charles se dit qu'il croyait que Didier était son fiancé. Et qu'elle n'était pas une autobore, mais la fiancée de Didier. On ne sait plus avec cette famille. C'est pire que les gens du Gotha. Et puis, qu'importe. Il sent une grande fatigue. Elle voit qu'elle aussi a des difficultés à rester les yeux ouverts. Il lui dit, « La nuit a été longue. Nous pourrions peut-être nous assoupir un peu. » Elle lui dit, « Vous avez raison. À la guerre comme à la guerre. Dormons comme on peut. » Elle s'étire, enlève ses chaussures et se plaque le dos à la rampe. Lui en fait autant, mais au mur. Il s'est endormi d'un sommeil noir, profond, car il était trop fatigué. D'un moment, il s'est réveillé, mais à une sensation étrange. Dans son sommeil, elle s'est couchée contre lui, la tête sur son épaule. Il est malgré lui ému. Sentir ce joli corps si doux contre lui, il n'ose pas bouger, aimerait même que cela durât le plus longtemps possible. Il se penche légèrement et voit son petit visage endormi, un visage de jeune fille ravissante et belle. Il se sent ému par ce visage et ne sait comment il est devenu aussi rapidement amoureux. Il a oublié le bruit, les émeutiers, les aurores, la peur. Il n'y a plus que cet amour pour cette jeune fille et lui. Blotti innocemment contre lui et qui est si abandonnée, si belle, qu'il en pleurerait presque. Le mec, il aimerait que le temps s'arrêtât, qu'ils aillent vivre dans un coin loin du monde et de ses furies. Avec elle, rien qu'avec elle. Il se dit qu'il a fallu qu'il soit à Paris pour aimer celle qu'il devait aimer. Ah, si ses parents pouvaient le voir, comme ils seraient heureux, la fille de leur meilleur ami, avec leur fils, et qui s'aime. Qui s'aime. Lui l'aime, mais elle. Peut-être refusa-t-elle son amour. Non, mon Dieu. Non. Si elle ne m'aime pas, je me tue. Il sent qu'elle bouge un peu, se soulève, se dégage. Elle le regarde confuse, lui ébloui. Elle lui dit, je m'excuse. Lui sourit et lui dit, c'était merveilleux. Pourquoi ne pas rester ainsi? Et elle regarde d'un air sérieux et lui dit « Ne seriez-vous pas amoureux, vous, par hasard ?» Il ne répond pas honteux. Elle lui dit « Au lieu de rêver, nous allons voir si nous ne voulons pas sortir d'ici. Ce doit être le matin maintenant. » Il regarde sa montre et lui dit « Il est 5 heures, nous avons le temps. » Elle lui répond « C'est la bonne heure, mais... il risque de recommencer dans la matinée. C'est le moment de sortir de ce trou à rats. » Elle se lève et lui dit, « Venez. » Il se lève. Et sortent de l'allée. Dehors, le jour commence à pointer. N'en entend pas le moindre bruit. Elle lui dit, « Je vous l'avais bien dit, la route est libre. Venez. » Tout à coup, il regarde ses pieds et lui dit, « Comme ça, nous avons oublié nos chaussures. » Cela les fait rire. Et retourne dans l'allée. Dehors, il n'y a personne, à part des cadavres par-ci par-là, des voitures brûlées, la chaussée défoncée, des immeubles en ruine, des magasins dévastés. Il se trouve dans une ville après une bataille, un bombardement. Du sang sur la chaussée. Des cadavres ont attiré des chiens, des chats, des rats qui se disputent les restes. A l'air d'un véritable charnier dans une décharge. Rien ne bouge. Il marche à main dans la main, horrifié, et lui dit, mon Dieu, mon frère, mon pauvre frère, pourvu qu'il lui a rien arrivé. Il lui dit, je vous raccompagner jusqu'à chez vous. Je vous remercie, Jessiport. » Il lui serre la main. Les Champs-Élysées, les immeubles en ruine, les magasins pillés, les voitures en feu, des cadavres de partout. L'Arc de Triomphe, il ne reste plus un trou, un bout d'un tas de pierres. La Tour Eiffel pend drôlement et son haut manque. Il est tombé à terre sur une dizaine de gens qui sont morts sur le coup. Queen. Seule Notre-Dame reste, mais tout autour, ce n'est que des ruines. Et au-dessus de son entrée, on a mis une banderole écrite en rouge. Dieu est mort. Le Panthéon a été vidé de ses corps. On leur a mis le feu et les corps jetés à la Seine. Seul le lycée Henri IV n'a pas été touché. Secret défense, lieu mystique de l'auteur et de la vie de l'auteur. Mais tout Paris est en ruine. Les rues pleines de cadavres, de feux, de voitures en feu, de détritus, de meubles cassés, d'immeubles incendiés. Il marche dans cette ville où il n'y a pas un bruit, à part celle des bêtes, des charognes. On dirait que les gens se terrent, ont peur de ce qu'ils ont fait. Plus d'électricité, de téléphone, d'eau courante, de gaz. La police, l'armée, les ministères, les commissariats, les casernes, l'Élysée, tout est vidé. Ils sont partis. On ne sait où. Comme s'ils ne voulaient pas. Comme s'ils savaient ce qui allait se passer. Ils souhaitaient ce qui allait se passer. Les pompiers non plus n'ont rien fait. Ni les hôpitaux. Les blessés sont venus d'eux-mêmes à l'hôpital. Ils ont été reçus d'un mauvais œil, qui oxygénait l'ordre des choses. Ils marchent en se tenant la main au milieu de tout ça. Ils arrivent enfin au quartier du Marais. Elle lui indique une petite maison qui se trouve dans une cour. Par miracle, ça a été épargné. C'est ici. Elle lui montre la petite maison qui est au fond de la cour. Elle lui dit, nous c'est derrière cette maison. La maison devant, c'est celle des concierges de l'hôtel. L'hôtel est du 18e, appartient à la famille de ma mère, qui est issu d'une famille de nobles qui était à la cour du roi à Versailles. Ils entrent dans la cour pavée, vont derrière la maison et se trouvent devant une autre maison plus grande et plus belle de 3 étages, avec double escalier qui monte au perron. Elle lâche la main de Galien et monte en vitesse les escaliers. Galien la suit. Elle tire le coulisseau lyonnais pour mettre en route la cloche. Pas de réponse. Elle prend les clés et ouvre la porte. Entrez, ils entrent. Elle crie, Didier ! Pas de réponse. Il lui est peut-être arrivé quelque chose. Didier, tu es là ? Pas de réponse. Allons voir s'il n'est pas dans sa chambre. Elle monte les escaliers de pierre. Il la suit. En vitesse, je dois vous dire, car j'ai peur de la perdre. La maison est meublée Louis XV, avec très peu de meubles. Ça fait un peu vide, mais bien, c'est clair. Voilà, allons la rattraper. Au deuxième étage, elle suit un couloir. Frappe à une porte. Didier ! Didier ! Elle entre. Lui aussi entre. La pièce est dans la pénombre. Dans le lit apparaît le corps nu. Une voix dit, c'est toi, Fleur ? Oui, c'est moi, Didier. J'ai eu très peur. Elle s'approche de lui. Tu vas bien ? Lui touche le front. Il lui dit, moi aussi, j'ai eu très peur. Je me suis couché tremblant pour toi, pour nous. Elle met sa tête sur sa poitrine, en lui caressant les cheveux et lui caressant le front. Tout d'un coup, Didier voit Galien et dit, qui est-ce ? C'est rien, c'est Galien. Galien est triste d'entendre qu'elle le présente comme ça. Elle dit à son frère, un fils d'une amie à ma mère, famille Gap. Didier dit, je connais pas. Elle dit, moi non plus, mais nous avons fait connaissance cette nuit dans la tourmente. Didier lui dit, la tourmente ? Tu as risqué ta vie ? Elle lui dit, non, ne te fais pas de soucis. Je suis réfugié dans une allée d'immeubles et j'ai vu rentrer monsieur. Ou plutôt, il est venu me rejoindre et nous avons fait connaissance. Je dois avouer, c'est que, comme lui, je ne valais pas grand-chose. Didier lui dit, merci monsieur. Galien s'approche et lui dit, ce n'est rien, nous sommes mutuellement remontés le moral. Didier lui dit, ma sœur est si forte. Sa sœur lui dit, tu vas te lever et nous allons manger quelque chose. J'ai une de ses faim. Didier lui dit, j'aimerais bien de la confiture de rose avec mon petit déjeuner. Elle lui dit, mon pauvre chéri, c'est impossible, nous n'en avons plus. Et Paris est en ruine. Didier lui dit, c'est pas pour quelques coups de feu. Non, l'horreur, même la tour Eiffel a perdu la tête. Mon Dieu, tant que ça, mais c'est terrible. On va peut-être venir nous égorger. Elle l'embrasse sur la joue et lui dit, peut-être, mais pour le moment, Paris semble mort et vidé de tous ses habitants. Il lui dit, et si nous partions ? Elle lui demande, pour aller où ? Et puis, les transports ne marchent pas, il n'y a plus d'essence pour les voitures. Il lui dit, partons à pied. Elle sourit et lui montre ses talons. Avec ça ? Et puis peut-être que la France entière, le monde, est en ruine. Comment savoir si ce n'est pas la fin du monde, mon petit frère ? Nous resterons bien sagement ici. De toute façon, ici ou là, son frère lui dit, tu as raison. Galien la trouve charmante et a l'impression de se trouver dans une représentation théâtrale. C'est tout juste s'il n'applaudirait pas. Ah, les gens de bon goût, bien élevés, sortent. Eux seuls savent sortir des situations les plus délicates avec grâce et élégance. D'une tragédie, il la transforme en vaudeville 4 étoiles. Didier lui dit, bien je me lève. Galien voit un jeune homme en slip blanc, le corps d'adolescent imberbe d'une pâleur pure. Le visage et les gestes sont de sa sœur, blond lui aussi. L'on dirait deux jumeaux, un dieu et une déesse. Didier dit, je me lève et m'habille. Elle dit, tu as raison. Nous allons à la cuisine. Venez, Galien, nous allons préparer le repas.
Et ils sortent de la chambre.
À la cuisine, il l'aide à préparer le petit déjeuner. Elle lui dit, j'ai plus de domestique, mais on se débrouille mon frère et moi. Si ma mère nous voyait, et vous, oh là, moi j'en ai des tas, si vous en voulez.
Elle ouvre les tiroirs, les placards, les congélateurs, réfrigérateurs. Réfrigérateur et congélateur ne marchent plus, mais servent de rangement. Elle trouve du lait en poudre. Tant pis. Des biscottes, de la confiture de myrtille, c'est mieux que rien, et des œufs. On essaye de les manger, c'est peut-être encore bon. Galien lui dit,
nous risquons d'avoir une crise de foie. Et ils se mettent à préparer tout ça. Elle lui dit, vous allez voir, son Altesse va venir lorsque tout sera prêt. Galien sourit et lui dit, c'est un ange, mais qui aime bien être servi. Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la deuxième époque de Violence et Crépuscule, Imami, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.